Vous les avez sûrement vus sur les routes des vacances, ces panneaux jaunes à l'entrée des villages, avec cet œil au milieu qui vous fixe, parfois noir, parfois bleu, comme pour dire « Hé toi, attention, jeté à l'œil ». La plupart du temps, désigné par le maire, citoyen volontaire, le voisin vigilant est censé rapporter à la police ou la gendarmerie tous les faits qu'il peut trouver suspects. Les détracteurs parlent de délation, les promoteurs répondent « Pas du tout, nous créons du lien entre voisins », alors que la sécurité promet d'être l'un des thèmes de campagne de la campagne présidentielle à venir, alors que le président Macron a appelé lui-même à une société vigilante, voisin vigilant, la sécurité peut-elle être l'affaire de tous? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans le débat de midi.
Thomas Chauvineau, le débat de midi sur France Inter.
Et on attend bien sûr sur l'appli ou sur le site de France Inter vos réactions, vos commentaires, vos questions aussi. Mais comme tous les jours, on commence l'émission en ouvrant le journal et c'est Libération qu'on feuillette en ce mardi 17 août avec vous Arnaud Vollerin, bonjour.
Bonjour.
Vous revenez dans votre journal sur le dernier procès Khmer, le dernier responsable survivant, en tout cas important, à être jugé. Et c'est un procès qui a commencé lundi, c'est un procès en appel d'ailleurs.
C'est un procès en appel, effectivement, de Khieu Samphan, le dernier dirigeant des Khmers Rouges, hein, ce régime ultra-maoïste génocidaire qui, entre avril 1975 et janvier 1979, a exterminé près de 2 millions de personnes, de Cambodgiens, donc plus près d'un quart de la population du pays à ce moment-là. Et c'est un procès, effectivement, historique, puisque Khieu Samphan est l'ancien chef de l'État du Kampuchea démocratique, comme on le disait à l'époque. Et c'est le premier ancien chef d'État au monde, d'ailleurs, à avoir été condamné en première instance pour génocide à l'encontre d'une minorité musulmane, les Cham, au Cambodge, et également à l'encontre des Vietnamiens.
Alors, il a aujourd'hui 90 ans, et ce procès pose bien aussi la question de la justice, qui même plus de 40 ans après les faits, doit continuer à faire son œuvre.
Oui, c'est ça. Alors, effectivement, on peut s'étonner que cette justice intervienne si tardivement, puisque les faits se sont passés il y a 45 ans à peu près, entre 45 ans et 40 ans, et que la compétence du tribunal effectivement court de avril 75, quand la capitale est prise par les Khmer Rouges, jusqu'à janvier 79, quand le régime tombe à la suite de l'offensive des Vietnamiens qui envahissent le pays. Et effectivement, ça a mis beaucoup de temps, et c'est un regret. C'est dû à la fois au fait que les Chinois ne voulaient pas d'un procès, les Américains non plus, puisqu'ils avaient peur, les Américains, d'être rattrapés par la justice à cause de leur bombardement massif sur le Vietnam, mais également sur une partie du Cambodge, où passaient les combattants vietnamiens. Et les autorités du Premier ministre et du gouvernement Hun Sen n'ont pas voulu pendant très longtemps également. Mais finalement, ça a démarré tardivement en 2007, et il y a eu effectivement, pour l'instant, en tout cas, trois personnes qui ont été jugées. Donc il y a Nguyen Xi, qui a été condamné il y a 2 ans, avait aux côtés de Khieu Samphan en première instance, et puis il y avait également le bourreau de S21, la machine de mort Khmer Rouge qui était installée dans la capitale et qui a tué lui Duc, qui était le dirigeant de ce centre de torture, où sont été tués à peu près 13 000 personnes. L'essentiel, c'était des gens d'ailleurs du mouvement Khmer Rouge qui sont passés par là et qui sont morts.
Et Khieu Samphan, donc l'accusé, hein, 90 ans, je le répète, n'a reconnu aucun des faits qui lui sont reprochés. Il dit non, je ne savais rien, je ne savais rien.
Oui, c'est effectivement sa stratégie de défense depuis le début, hein, depuis la fin de la chute du régime. Il y a une formule d'ailleurs qui est assez juste, qui est employée par Francis Deron, qui était un journaliste qui a longtemps enquêté pendant 30 ans sur les Khmer Rouges, et qui disait que Samphan est celui qui voit mais qui ne veut pas savoir. C'est-à-dire toute sa stratégie de défense après 79 a été de dire c'est pas moi, c'est les autres, c'est Pol Pot, donc le dirigeant des Khmer Rouges, c'est Yang Sari, l'ancien ministre des Affaires étrangères, c'est Sun Sen, le chef de la police, c'est Tamok, l'un des grands bouchers qui a exterminé des milliers de personnes, mais c'est jamais moi. Or, les faits sont là, ils sont têtus, et ils se rappellent à nous, et que tous les chercheurs qui ont travaillé sur cette période le savent très bien, à commencer par Ben Kiernan, d'ailleurs, que j'interview dans cet article qu'on publie aujourd'hui dans Libération. Il montre très bien que à de très nombreuses réunions, Khieu Samphan était présent. Des réunions où ont été décidées des purges, des réunions où ont été décidées de prendre des décisions pour déplacer des gens, etc. Donc il y a une responsabilité qui est avérée, qui est prouvée déjà, et que si effectivement Khieu Samphan n'était pas parmi les grands dirigeants de la machine Khmer Rouge, la machine à tuer, il était quand même dans les 10 premiers. Donc c'était vraiment quelqu'un qui a une responsabilité dans ces massacres qui ont tué donc plus de 2 millions de personnes.
Et c'est le dernier vivant, vous le rappelez hein, dans l'article. Eh bien merci Arnaud Vollerin. Cet article dont Khieu Samphan, un dernier procès pour la terreur Khmer Rouge, c'est à retrouver aujourd'hui dans Libération de ce mardi 17 août. Merci à vous, bonne journée.
Merci à vous, au revoir.
Au revoir.
Les voisins vigilants. Le concept vient des États-Unis. Le dispositif existe à Marseille depuis 2012. Il permet de lutter contre les cambriolages pendant les vacances. Il s'appuie sur des riverains aptes à alerter les autorités en cas de comportement anormal. Vincent Marcel, Francis Di César.
Mauvaise surprise pour Daniel Morin. Pendant ses vacances, des individus sont entrés sur sa propriété.
Par là, là, ils ont grimpé ici, là. C'est les voisins qui sont arrivés, qui ont crié, qui sont rentrés. Et les gamins, ils sont repartis à fond la caisse.
Françoise coordonne le réseau. Tous les jours, elle patrouille depuis chez elle ou dans la rue.
J'estime que chacun peut être acteur de sa propre sécurité. Il suffit qu'il ait les yeux grands ouverts, qu'il puisse voir ce qui se passe à un certain moment. Ça peut être du vol à l'arraché, ça peut être du carjacking. On peut tous être témoins de quelque chose et savoir prendre les renseignements, les collecter, les envoyer.
Extrait d'un reportage diffusé sur France 3 Marseille dans le 19-20, c'était en juillet 2019. Quatre invités pour s'intéresser aux voisins vigilants aujourd'hui et tenter de saisir ce qu'il y a derrière ces panneaux. Juliette Méadel, qui est présidente du premier groupe d'opposition à la mairie de Montrouge. Mathieu Vallée, commissaire de police et porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Bonjour.
Bonjour.
Thierry Chicha, qui est président des voisins vigilants et solidaires. Bonjour monsieur. Et Virginie Malocher, qui est sociologue à l'Institut Paris Région. Peut-être en quelques mots, Virginie Malocher, quelques mots très simples, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire comment fonctionne la participation citoyenne de ces voisins vigilants ?
Oui, alors, pour le dire très simplement, ce sont en fait des réseaux, des groupes d'habitants qui se constituent à l'échelle du voisinage, à l'échelle du quartier, avec un rôle qui est de veiller sur leur zone résidentielle, pour le dire comme ça, et d'informer les forces de l'ordre de tout fait particulier. Ça, c'est comme ça que c'est formulé sur les plaquettes officielles. Tout fait particulier, qu'entendre par là, la question reste grande ouverte, enfin, on saisit quand même l'esprit de la démarche. J'ajoute une précision, il y a deux formules, si je puis dire, il y a deux modalités à distinguer. D'une part, un dispositif officiel, dit participation citoyenne. Ça a été labellisé tel quel par le ministère de l'Intérieur en 2011. Donc ce dispositif de participation citoyenne, il est localement supervisé par les forces de l'ordre et par le ou la maire. Ça permet de désigner des habitants référents sur base de volontariat. Bon, voilà. D'après les derniers chiffres communiqués, il y aurait 5600 communes à la grosse louche qui se sont dotés d'un dispositif de ce type-là, beaucoup plus en zone gendarmerie d'ailleurs qu'en zone couverte par la police nationale. Et puis, de l'autre côté, et j'entendais que vous avez Thierry Chicha sur le plateau, le président de la société Voisins Vigilants et Solidaires, d'un autre côté, on a des groupes de résidents, des communautés de voisins vigilants au sens propre, j'allais dire. Là, ce sont des résidents qui se fédèrent, qui s'unissent par l'entremise d'une plateforme web, qui est donc cette plateforme gérée par une entreprise privée qui offre un système d'alerte SMS, quelques autres fonctionnalités.
Et donc deux systèmes en tout cas, un public et un système privé. Mathieu Vallée, vous êtes commissaire de police. Est-ce que ces systèmes sont efficaces ?
Non, ça a le mérite d'exister. Après, quand on veut évaluer un dispositif, il suffit d'aller au résultat, comme on dit chez nous. Donc, l'élucidation des cambriolages se fait très rarement sur la base des renseignements communiqués par ces dispositifs qu'on les appelle participation citoyenne ou voisins vigilants. C'est-à-dire que les gens, effectivement, lorsqu'ils constatent un comportement anormal ou un véhicule qui n'a pas l'habitude de circuler dans le quartier en question ou encore des difficultés, ils font d'abord le 17 police secours. C'est ce qui permet, lorsqu'ils constatent, par exemple, des individus en train de fraquer une porte ou en train de casser une fenêtre, de pouvoir faire intervenir les forces de l'ordre rapidement. Après, les renseignements en amont qui peuvent être communiquées. Souvent, il y a une adresse mail, un numéro de téléphone dédié à une personne référente au sein du commissariat qui s'occupe du dispositif. Ça permet de recueillir du renseignement. Et votre intervenante a raison. On a ce dispositif qui est mis en place dans les petites et moyennes villes, dans les grandes agglomérations, comme Paris, par exemple. Le dispositif ne serait pas opérant parce que les gens ne se connaissent pas, parce que c'est trop grand et parce que la couverture géographique et de population est beaucoup trop grande pour qu'on ait un dispositif qui soit adapté.
Mais il ne s'agit pas forcément d'élucider, il s'agit aussi de prévenir.
La prévention, elle se fait d'abord par les patrouilles que les commissaires ou les commandants chefs de service orientent par rapport aux remontées des plaintes et aux informations que les policiers prennent tous les jours sur la voie publique en prenant contact avec la population. Après, effectivement, comme on peut pas être partout à l'instant T, puis on peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen, et ben, quand on a un habitant qui fait partie du dispositif et qui nous transmet des renseignements, c'est vrai que ça peut nous permettre, par exemple, de voir un véhicule inhabituel avec une plaque d'immatriculation, voir si c'est des gens qui rendent visite à des voisins ou si bien c'est un véhicule qui fait du repérage pour des éventuels cambriolages. Souvent, on constate, par exemple, que les spécialistes des cambriolages, que c'est souvent le ou les mêmes individus qui font 10, 15, 20 cambriolages sur une période assez déterminée, notamment les vacances, qui est propice effectivement durant l'absence des propriétaires ou locataires à ce genre de fait, font une trace sur la boîte aux lettres ou viennent plusieurs fois en repérage pour vérifier que les gens ne viennent pas par des allées-et-viens, par de la présence dans les habitations. Et là, ça peut effectivement nous mettre la puce à l'oreille et faire intervenir les policiers ou même, parfois, c'est vrai, organiser une planque par des effectifs en civil, comme la brigade anticriminalité ou comme des unités judiciaires en civil. Mais c'est pas non plus l'alpha et l'oméga de la lutte contre les cambriolages.
Juliette Méadel, vous êtes élue de l'opposition dans la ville de Montrouge, donc c'est à côté de Paris. Vous êtes catégoriquement opposée au projet du maire de faire participer justement les citoyens à la sécurité de la ville. Pourquoi ?
Parce que Montrouge est une commune limitrophe de Paris qui est dans la zone, qui est la zone de la préfecture de police de Paris, qui donc en termes d'effectifs de police de sécurité ou de gendarmerie n'a évidemment pas besoin d'en rajouter une couche. Donc ça veut dire que d'abord en termes de moyens, je trouve ça totalement aberrant. D'ailleurs, vous venez de le dire, monsieur le commissaire de police, dans les zones qui sont des zones de forte agglomération, on n'a évidemment pas besoin d'avoir recours à ce type de dispositif. D'abord localement, c'est inopérant. Et puis, alors en plus à Montrouge, je le dis aussi, parce qu'il y a probablement de nombreuses communes qui sont dans ce cas-là, c'est une commune qui est surdotée en moyens de vidéosurveillance et qui a multiplié sa police municipale par deux et qui l'a également armée. Donc vous voyez que là, on est dans une espèce d'inflation sécuritaire. D'abord, ça coûte de l'argent public et en plus, ça ne sert pas à grand-chose. Après, il y a un problème qui me semble être un gros problème politique, c'est qu'en combattant cette décision du maire, j'ai regardé la circulaire, la fameuse circulaire du 30 avril 2019, qui est une cité là qui a été adoptée par Christophe Castaner, et qui, elle-même, me semble être sur le fond très choquante, parce que, en fait, on fait semblant de dire qu'on va faire participer les citoyens, parce que c'est dans l'air du temps, mais en fait, on confond, en fait, la culture de la vigilance, de l'attention aux autres, et de la citoyenneté, qui consiste à être attentif à ce qui peut se passer autour de soi, avec la culture de la surveillance. Donc, on confond vigilance et surveillance. Et on tord le coup, en fait, à nos principes, qui sont y compris nos principes en termes de fonctionnement de l'État. En France, l'État de droit, c'est la théorie générale de l'État, c'est lui qui assume les fonctions de sécurité. Donc, il est complètement scandaleux que le ministère de l'Intérieur se décharge de sa fonction de sécurité d'ordre public sur des citoyens. Si vous voulez, nous, en tant que citoyens, nous payons nos impôts parce que nous attendons de l'État qu'il remplisse sa mission fondamentale qui est la protection. Nous voulons être associés aux décisions, c'est le principe de la démocratie, mais nous ne voulons pas, en tant que citoyens, remplacer l'État. Ça n'est pas aux citoyens de faire le travail des fonctionnaires de police.
Alors Thierry Chicha, justement, vous êtes président des voisins vigilants et solidaires. Est-ce que vous avez la sensation de remplacer l'État, comme vient de le dire Juliette Méadel?
Non, pas du tout. L'idée du dispositif voisin vigilant, c'est au contraire, c'est de pouvoir aider finalement les forces de l'ordre à faire du mieux qu'ils peuvent leur travail. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà très rapidement.
Oui, on a une heure pour en parler, c'est vrai. On
peut. Une présentation du fonctionnement du dispositif voisin vigilant pour qu'il n'y ait pas de confusion avec les autres dispositifs qui peuvent exister et qui ont déjà été cités, notamment celui de participation citoyenne. Si vous voulez, le fonctionnement du dispositif voisin vigilant, c'est un réseau d'entraide entre voisins qui, et ça me semble être un point très important, en s'appuyant sur des outils de communication, une application mobile, un système d'alerte par SMS, un site web, etc., va permettre d'une part de recréer de la convivialité dans le voisinage, c'est-à-dire que les gens, les voisins vont apprendre à se connaître et à s'entraider sur des thématiques même plus larges que celles de la sécurité, évidemment, et d'autre part de réduire efficacement les risques de cambriolage. Moi, les seules données statistiques dont je dispose là-dessus, mais là, à se retourner pour le coup vers les forces de l'ordre, le ministère de l'Intérieur, c'est des chiffres qui ont une dizaine d'années et qui annonçaient entre -20 et -40% de cambriolage dans les secteurs concernés. D'ailleurs, dans votre petit sujet d'introduction, vous annonciez une création du dispositif voisin vigilant en 2012. C'est faux, il s'agit d'un dispositif qui a été créé en 2002, qui existe du coup.
J'ai dit généralisation, justement. C'était généralisé en 2011 sous l'influence de Nicolas Sarkozy et de Claude Guéant, qui était ministre de l'Intérieur.
Bon, qui a été créé en 2002, du coup. Et en fait, le principe, si vous voulez, c'est que c'est donc un réseau qui est totalement gratuit pour les particuliers, avec en effet la possibilité pour certaines municipalités qui le souhaiteraient d'avoir des options qui leur permettent d'envoyer des alertes de façon instantanée à tous leurs administrés, notamment sur des problématiques de plan communal de sauvegarde, d'alerte inondation, de vagues de cambriolage.
Et qui là sont des options, mais, disons, payantes. Mais combien de citoyens vigilants sont concernés par votre société?
Ouais, bien sûr, j'y arrivais. Donc en effet, un dispositif qui est totalement gratuit pour l'ensemble des citoyens, et donc un dispositif qui concerne 1 million de Français, donc 1 million de personnes qui utilisent quotidiennement les outils d'alerte dont je viens de vous parler, et 700 municipalités dans lesquelles ce dispositif est déployé. 700 municipalités qui ne sont pas forcément des municipalités de zone rurale. Hein. Je lisais, Madame Méadel, d'ailleurs, il y a certains propos que vous avez tenu sur lesquels je suis totalement d'accord avec vous, hein. Mais une tribune que vous tenez sur votre site internet dans laquelle vous expliquez que le dispositif voisin vigilant est déployé uniquement en zone rurale, en l'occurrence, il est déployé notamment, pour vous citer quelques-unes des communes de région parisienne, sur les communes d'Antony, d'Anières, du Plessis-Robinson, de Meudon, de Sceaux.
Mais pas initié par les mairies, Thierry Chicha.
Initié par les mairies, oui.
Initié par les mairies.
Les communes que je vous donne, ce sont des communes qui ont initié le dispositif. Je pourrais vous citer aussi Gagny, Gournay-sur-Marne, Le Blanc-Mesnil, Livry-Gargan, Montfermeil, Noisy-le-Grand, Villepinte, etc., etc.
Alors Juliette Méadel vous répond puisque vous l'avez interpellé.
Oui, alors simplement ce que moi je critique, c'est que, si vous voulez, l'esprit même de voisins vigilants qui est votre organisation privée, moi je rentre pas dans les détails d'une initiative purement privée, citoyenne, avec les outils numériques que vous mettez en place, bon, ça c'est votre affaire, si je puis dire. Si vous voulez, ce que je conteste, c'est lorsque les maires de communes urbaines importantes, et en particulier les mairies qui sont limitrophes de Paris, donc qui sont déjà dans un dispositif de sécurité nationale, parce que les maires prennent l'initiative de déployer ce réseau. On n'est pas du tout dans la même configuration que la vôtre. Vous avez une initiative, c'est votre liberté. Moi, ce que je conteste, en tant qu'élu, en tant qu'ancien ministre chargé de l'aide aux victimes d'attentats, donc je connais bien les questions de sécurité, ce que je conteste, c'est qu'un maire s'appuie en plus sur un texte que je trouve contestable du ministère de l'Intérieur pour se décharger de sa mission fondamentale et de sa mission principale. Et là où je peux à la limite comprendre que dans les petites communes rurales, parce qu'il n'y a pas assez de gendarmes, parce qu'il n'y a pas assez de forces de l'ordre, on peut ponctuellement se dire que si jamais on assiste à un cambriolage ou à quelque chose dans un rayon ou désert, eh bien, il est effectivement assez naturel d'appeler les pompiers ou éventuellement la gendarmerie, même si on assiste à un événement violent, ça c'est le devoir de tout citoyen. Il n'y a pas besoin d'un texte pour ça. On prévient parce qu'on aide, c'est de l'entraide, ça peut être même de la non-assistance à personne en danger. Ça, c'est un devoir moral. Mais ça n'est pas du tout la même chose que d'organiser ce que j'appelle volontairement et de façon provocante une milice citoyenne qui consiste pour un maire d'une commune qui n'en a pas besoin à recruter parmi ses amis, parce que vous voyez par exemple à Montrouge, il est écrit dans le texte que le maire va sélectionner sur les critères d'honorabilité sa petite milice personnelle
qui participera d'ailleurs aux réunions de sécurité avec toutes les forces de l'ordre, y compris les représentants de l'État, qui aura donc accès à des informations, qui pourra d'ailleurs, et rien ne l'en empêche, se doter d'un uniforme, pourquoi pas être armé. Et donc on est, si vous voulez, dans une dérive.
Enfin, être armé, vous avez d'ailleurs employé, Juliette Méadel, le mot milice, mais personne ne parle de l'armement aujourd'hui de ces citoyens vigilants.
Précisément. Mais vous avez raison, pour le moment personne n'en parle, mais le texte ne l'interdit pas, donc évidemment qu'il faudra demander une autorisation à l'État. Mais si vous voyez par exemple la dérive dans notre pays, où de plus en plus maintenant les polices municipales sont armées, d'ailleurs c'est encouragé par le ministère de l'Intérieur. Alors ça c'est un fait. Bon, très bien. Donc on a une police nationale qui est dotée, une police municipale qui est de plus en plus armée un peu partout en France, et donc maintenant on veut avoir en plus, si vous voulez, des citoyens qui vont surveiller, parce que c'est ça dans le texte, qui vont transmettre des informations, qui vont régulièrement rencontrer les gendarmes et la police, ainsi que le maire, qui, comme le dit le texte lui-même, hein, qui vont assurer la sécurité intérieure et extérieure de la ville. Donc, ces milices vont mettre en œuvre la politique de sécurité. Hein. Je vous cite le texte, qui est donc la circulaire du ministère qui fonde la création de ces milices. Elles vont donc mettre en œuvre. Vous voyez,
Mathieu Vallée, est-ce que vous
loin des voisins vigilants. Hein,
Mathieu Vallée, est-ce que vous avez la sensation, vous êtes commissaire de police, que ces voisins vigilants peuvent devenir des milices?
Non, mais il y a beaucoup de choses de ce que Madame Médal dit dans ses propos qui sont pas exactes. La première chose, c'est que la vidéoprotection, elle relève des communes, à part pour la spécificité parisienne, c'est la préfecture de police par le plan PVPP, donc le plan de vidéoprotection de la préfecture de police qui en a la charge. On a besoin aujourd'hui des caméras. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent prévenir. Ça permet à un opérateur, souvent en centre de supervision urbaine, de visualiser plusieurs caméras en même temps. Donc ça permet, dans les zones couvertes, de déceler des comportements étranges ou des personnes qui viennent s'adonner à des infractions. La deuxième chose, c'est les polices municipales. Elles sont pas en remplacement des policiers ou des gendarmes. Elles sont en complémentarité. Et là où je suis pas d'accord avec Mme Médaël, c'est qu'il faut armer ces polices municipales. Pourquoi? Parce qu'il suffit de regarder la ville de Nice. Lorsqu'il y a eu un attentat l'année dernière dans une église, les primo-intervenants, ceux qui étaient les plus proches, même si les policiers de Nice sont intervenus rapidement, c'était les policiers municipaux face à un individu qui avait un couteau, qui avait blessé et tué des gens dans une église. Et que si les policiers municipaux ne sont pas armés, c'est les livrer à un danger permanent sur la voie publique. Aujourd'hui, tous ceux qui portent un uniforme, y compris les pompiers, sont des cibles. Et donc, c'est important qu'ils soient armés, donc armés pour se protéger, pour protéger autrui. Maintenant, non, il n'y a pas de milice en France, il n'y a aucune milice. Moi, je trouve bien que des gens désignés qui prennent la responsabilité collective de pouvoir transmettre des informations, participer à des réunions d'information. Évidemment que dans ces réunions, on va transmettre aucun renseignement lié aux affaires judiciaires, à des personnes en particulier, parce que d'abord on est des professionnels, on est des républicains et qu'il y a le secret de l'enquête et de l'instruction, et surtout parce que à part le procureur de la République, les policiers ne sont pas amenés à s'exprimer sur des affaires en elles-mêmes ou dans le contenu des affaires. Et puis si on a un souci ou une inquiétude sur une personne, on va évidemment pas faire part de cette inquiétude en réunion. Et enfin, je vais terminer, il serait bien de faire confiance entièrement à notre police républicaine. En réalité, les policiers aujourd'hui, lorsqu'ils s'appuient sur les voisins vigilants, moi je trouve ça bien que les policiers communiquent avec la population, parce que aujourd'hui, on a besoin de tout le monde pour assurer la sécurité, et c'est pas faire de la délation ou faire des milices, hein. Y a personne qui sera armé, y a personne qui remplacera les forces de l'ordre, y a personne qui fera une interpellation à notre place. Encore une fois, il faut appeler les professionnels, et c'est ce qu'on dit à chaque fois, et Madame Médal a la raison, ils font 17 police secours et pas les pompiers.
Sur franceinter.fr, Roland nous écrit: bonjour, je suis référent citoyen vigilant pour mon quartier, j'ai trouvé votre présentation de ce matin presque caricatural. Alors c'est vrai, ce matin dans le 7-9 de France Inter, j'ai présenté ce qu'était le voisin vigilant avec toutes les questions que ça pouvait supposer. Cette démarche a apporté de la tranquillité dans notre quartier, nous dit Roland, marqué par les exactions d'une famille dysfonctionnelle et d'un squat qui dure depuis septembre 2019. On a l'impression d'être considéré par la mairie et par la police municipale et nationale. Je trouve que ce dispositif est très rassurant. Et Félix, à l'inverse, nous dit bonjour, pour moi, voisins vigilants sont des voisins réac qui n'aiment pas les étrangers ou les jeunes ou le bruit, qui n'aiment pas grand chose en fait, du moins rien qui vienne perturber leur petit quotidien. La sécurité peut-elle être l'affaire de tous? C'est la question qu'on se pose dans le débat de midi. Avec vous aussi, hein, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos questions, vos réactions sur le site de l'émission ou sur l'appli de France Inter. Dans quelques instants, nous serons au téléphone avec un maire en Savoie qui vient de créer son propre réseau de voisins vigilants. Vous êtes bien sur France Inter, il est 12h28. Relax.
is out. I mumble the raps, I'm selling her weed. The black is the features, my Nubian queen. They rock all the styles, they told us to leave. An Africa dog, increasing my jeans, she's showing out. She braiding my rhymes, I'm calling, she pick and decline. The box is all discreet. The box is where I'm scoring. The comfort free, she rock. The berries are black and they wholesome. The cherries are curled, you know me. My humpty that boom is a gnome, she cut me off. The fangs is out, my looking impaled. She rubbing my foot, I'm geeking out. You know that I'm stupid, I'm crazy in love. Buffing my baby, she's searching for blood. I'm reaching in sus, so taking my time. I'm rolling, extending that clip on my side. Circulation, stimulation. I seen it relaxing her hair for that jaw. Relax, 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 relax. The grappling stars and grappling me. The ba ba ba, the black boy sheen. Relax, 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 relax. The girls is out, the sun in my eyes. The black is rich, they jockin' their style.
When they hanging over your shoulder, acting like they own you, that raspy they selling you. Just tell them, relax. Yeah, yeah, relax. Yeah, but can we only try and warn you? If we don't stay on you, they might just end up in front of you. I told you, my relax. Yeah, yeah, relax. Yeah,
yeah, yeah. Skin is black, you need to relax. The styles of hair you're made to retract. The braids are French, the language I rap. The booty is soft, the panties are one beard down, call me a flirt. Here's how I feel, hands in the dirt, drinking my water, clutching her purse. Call me a robber, I'm at the church. Relax, 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 relax. The grappling stars and grappling me. The king of pop, a quick R.I.P. Relax, 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 relax.
Firm yourself, relax my on wax my bank bills on gold. Man, sack mine. Quit acting, you ain't sack mine. You must be smoking, broken mama backs. Crack, rock, paper, scissors, cutting. Open slow motion like a just got a GoPro. Heart attack, flow, those all got flat lines when the verse is over. Going, eh, or, or. Relax, my the killer. Relax, I got seven figures. Relax, I'm the f*** is the difference.
Relax, I'm not being sus, I'm just speaking facts.
Oh. You said you went to Peru, okay. You went there with who? Oh yeah, for sure. That totally sounds like it happened. I'm happy you're happy, man. I hope that you're happy. I hope that you're happy, man. Do what makes you happy.
Extrait du tout nouvel album très attendu du rappeur irlandais Regis Snow, Relax. Eh ben on l'est, Relax, du moins on essaye de l'être. Bel été à vous, il est midi 31.
Le débat de midi, à retrouver pendant tout l'été à midi sur France Inter et en podcast sur franceinter.fr.
Quatre invités aujourd'hui pour s'intéresser aux voisins vigilants. Mathieu Vallée qui est commissaire de police, Thierry Chicha, président des voisins vigilants et solidaires, Juliette Méladel qui est présidente du groupe d'opposition à la mairie de Montrouge et puis Virginie Malocher qui est sociologue à l'Institut Paris Région. Et ces messages qui continuent de nous arriver sur l'application de France Inter. Benjamin nous dit, le responsable des voisins vigilants dit que ce dispositif gratuit c'est faux, ce dispositif est gratuit c'est faux, les villes signent des conventions et paient parfois plusieurs milliers d'euros pour l'installation des panneaux. Patrice nous dit bonjour. Lorsque nous partons en vacances, les voisins s'occupent de notre maison et c'est pareil lorsqu'ils partent. Pas besoin de passer par des sociétés qui vivent de la peur de voir de la délinquance se développer. Et puis Julien nous dit, n'est-il pas problématique de vouloir recréer du lien social par la peur plutôt que par l'entraide? Et c'est une vraie question que pose Julien, Virginie Malocher.
Malocher. Oui, 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 vraie question. En effet, c'est vrai que cet argument du lien social et de la cohésion est souvent mis en avant par les voisins vigilants ou par les personnes qui adhèrent au dispositif de participation citoyenne. Donc, faut les entendre. C'est une motivation. En même temps, effectivement, les ressorts de cette cohésion, pour le dire comme ça, peuvent interroger parce que c'est une cohésion, ce sont des réseaux qui se constituent sur une logique de d'abord sur un mode de l'entre-soi le plus souvent parce que les voisins ont souvent des profils assez similaires et puis aussi sur une logique de protection du quartier, de détection de l'intrusion et de ce point de vue-là, ça peut interroger. Je voulais réagir à la fois aux propos des intervenants et aux réactions de vos auditeurs qui, je trouve, montre bien à quel point cette idée de la participation citoyenne dans le champ de la sécurité ne va absolument pas de soi, a fortiori dans le contexte français, parce qu'on a un modèle d'organisation sociale qui est fondé sur un État fort, hein, qui a pu
conforter cette idée très prégnante dans notre imaginaire que la sécurité, c'est d'abord et avant tout l'affaire de l'État. C'est pas forcément perçu comme ça dans bien d'autres pays comparables. Et puis aussi parce que traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, de la collaboration qui rend a priori suspect toute éventualité de participation. Ce sujet cristallise des oppositions fortes et on les entend. C'est pas un sujet consensuel. Je voudrais simplement dire que d'un point de vue juridique d'abord, le cadre légal en France est quand même assez strict et clair, ce qui n'empêche de discuter du fondement des valeurs, des orientations de ces réseaux-là. Moi, je suis là ni pour les promouvoir, ni pour les dénigrer, je m'intéresse juste à ce que c'est. Le cadre légal d'usage est strict, c'est-à-dire qu'en France, le Code de la sécurité intérieure interdit le port d'armes par des particuliers et proscrit toute association ou tout groupement de fait qui pourrait présenter les caractères d'une milice privée. De ce point de vue-là, on a une législation stricte et il faut probablement s'en réjouir. Et puis d'un point de vue plus pratique, plus factuel, j'ai envie de dire que c'est quand même intéressant d'aller regarder de près comment ça fonctionne. Et finalement, souvent ces réseaux, que ce soit le dispositif officiel ou les voisins vigilants, ce dont on se rend compte, c'est d'une part qu'ils ne trouvent pas toujours leur public, que même si le maire ou la maire veut monter un dispositif de participation citoyenne, c'est pas gagné de trouver des habitants volontaires. Et là encore, ça témoigne des réticences, finalement, et peut-être du défaut d'utilité perçue sur ce type de dispositif. C'est aussi difficile, une fois qu'ils sont constitués, ces réseaux, de les faire vivre, tout simplement, de les animer et de les pérenniser, faute d'utilité avérée.
Nous sommes justement au téléphone avec Yves Husson. Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour, monsieur.
Vous êtes le maire de Chana, en Savoie, 530 habitants, et vous avez créé votre propre réseau de voisins vigilants. Pourquoi ?
Oui, alors en fait, l'initiative est venue d'habitants de deux secteurs, de deux hameaux de la commune. Nous a proposé d'acheter le panneau en conséquence, etc. Et puis sur l'autre secteur, c'est une conseillère municipale qui s'est fortement mobilisée pour souscrire à cette initiative de voisins vigilants. Initialement, on parlait de veiller à une délinquance, à veiller à des cambriolages, à veiller sur des véhicules qui seraient suspects, qui circuleraient dans les hameaux concernés ou qui s'arrêteraient, qui observeraient, etc., etc. Je crois que c'est à partir de ce constat d'une délinquance qui a permis donc à ses habitants de créer ces deux actions. Certes, c'est une commune qui n'a que 530 habitants, mais qui reçoit 250 000 visiteurs, donc on pourrait penser que ce serait propice au développement de la délinquance. Or, ça n'a pas été le cas. Donc, j'ai pas de bilan sur cette thématique de la délinquance, parce que déjà avant, il n'y avait pas de cambriolage.
Bon. Alors pourquoi dans ce cas créer ces voisins vigilants ?
Voilà, alors pourquoi ? Alors l'objet c'était la surveillance de la délinquance, mais pour nous, en tout cas, c'est aller beaucoup plus loin que cela, puisque...
Yves Husson ? Yves Husson, j'ai l'impression... on vous a retrouvé, on vous a perdu, ça coupe un petit peu.
Ah oui, parce que c'est sur le portable. Ça a permis de réactiver une discussion entre les habitants, donc important. Ça permet aussi de développer une certaine solidarité dans les hameaux, souvent éloignés du chef-lieu et des services. Et pour le coup, vous avez des habitants nécessiteux qui sont un petit peu pris en charge, pour aller faire des courses au supermarché, l'emmener chez le médecin. Vous voyez,
donc de l'entraide et pas forcément lié à la vigilance, c'est ça que vous voulez dire, c'est plutôt un réseau d'entraide.
Par ce regroupement, par cette discussion, il était créé la fête des voisins, à laquelle j'ai assisté évidemment avec grand plaisir, et ce qui nous a permis, effectivement, ce qui a permis aux gens d'échanger avec le maire de façon tout à fait directe, décontractée.
Voilà. On vous a encore perdu, la ligne n'est pas très bonne. Merci Yves Husson d'avoir en tout cas présenté ce dispositif voisin vigilant plutôt sous le mode de la festivité là, puisque vous vous êtes retrouvé pour faire la fête. C'est aussi ça, Virginie Malocher, vous êtes sociologue, c'est voisin vigilant.
Ça peut l'être, en tout cas, moi, parmi les voisins vigilants que j'ai pu interroger, une fois de plus, c'est un argument qui est souvent mis en avant, c'est un argument qui est aussi utilement repris par les sociétés privées ou par les pouvoirs publics pour légitimer, en quelque sorte, ce type d'initiative et redorer le blason de dispositifs qui peuvent être controversés. Voilà, comme tout dispositif, tout dépend de la manière dont on s'en empare et de ce que l'on en fait. Après, il n'empêche que le fondement initial, c'est quand même un objectif de lutte contre la délinquance, contre les cambriolages. C'est comme ça que c'est affiché, que c'est motivé. Et de ce point de vue-là, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, il est très difficile de juger de l'impact réel de ces réseaux, faute d'évaluation systématique et rigoureuse.
Thierry Chicha, il y a peu de temps, vous avez signé un partenariat avec la police nationale. En quoi consiste-t-il exactement ?
Je vais vous répondre, mais donnez-moi juste 2 minutes pour répondre à tout ce qui a été dit.
Vous savez, si tout le monde commence à répondre à tout ce qui a été dit, on va jamais pouvoir s'en sortir,
Oui, je comprends, mais en même temps, on est là pour avoir un débat, et s'il y a beaucoup d'erreurs qui sont dites, je vais essayer de les corriger rapidement. Madame Merdet, vous parliez tout à l'heure d'un dispositif mis en place sur la commune de Montrouge, qui ne vous satisfait pas, je l'entends, pas de souci. Je tiens à préciser de façon extrêmement ferme que le dispositif qui est mis en place sur la commune de Montrouge n'est pas le dispositif voisin vigilant. C'est peut-être une copie, une mauvaise copie, enfin tout ce que vous voulez, mais c'est pas voisin vigilant et solidaire qui est mis en place à Montrouge. Donc il y a pas mal de personnes qui sont interviewées là dans le cadre de ce débat qui confondent allègrement voisin vigilant et d'autres dispositifs qui ne fonctionnent pas sur le même...
Ça pose aussi une question, justement, c'est qu'il y a beaucoup de dispositifs différents.
Pas effectué par le maire de la commune. Voilà, juste pour répondre sur ce point-là. Il a été dit, on a parlé de milices, de patrouilles, de dispositifs payants, tout ça est évidemment faux. Et donnez-moi juste une seconde pour bien expliquer ce qu'est le dispositif voisin vigilant, parce que c'est quand même le cœur du débat, et je pense qu'on n'a pas encore bien expliqué à vos auditeurs. Je voudrais vous prendre un exemple. Quand quelqu'un vient sonner à votre porte pour vous proposer un service de nettoyage de toiture, par exemple, alors que votre toiture, elle est nickel. La personne qui vient sonner chez vous, elle n'a pas d'équipement, elle a une camionnette qui est immatriculée à l'autre bout de la France, il n'a pas de carte de son entreprise et il insiste très lourdement pour rentrer chez vous. Là, vous avez pour moi deux comportements possibles. Un premier comportement qui est de lui dire « non, merci, je ne suis pas intéressé par votre service ». C'est vraisemblablement du faux démarchage. Et un deuxième comportement possible qui est de lui dire « non, merci, je ne suis pas intéressé par votre service ». Et dans la seconde qui suit, de prévenir les autorités compétentes pour intervenir, de police ou de gendarmerie, ou éventuellement de police municipale évidemment, et de prévenir son voisinage, parce que le gars, il va aller sonner dans les maisons du voisinage dans les minutes qui suivent, et vous n'êtes pas à savoir, mais il y a fort à parier que la petite mamie qui est veuve et isolée et qui est très accueillante l'invite à boire le café et qu'elle soit victime d'une escroquerie ou de repérage.
On a compris le principe de fonctionnement, Thierry Chicha. Mathieu Vallée, vous êtes commissaire de police. Est-ce qu'il y a besoin de passer par un dispositif public ou privé tel que les voisins vigilants ou la participation citoyenne pour que finalement le citoyen prévienne les forces de police qui en général décident de prévenir dans ces cas-là, dans des cas suspects, les forces de police?
Non mais votre sociologue a la raison, on a un problème de délitement du lien social dans notre pays aujourd'hui, les gens ne se parlent plus, on voit d'ailleurs que pour des problèmes aujourd'hui de voisinage, de différends entre particuliers, avant les gens venaient se parler puis régler ça entre eux, maintenant on fait systématiquement appel au service de police. Et puis pour être précis aussi, le système payant qui permet effectivement de fluidifier l'information, de prévenir les gens qu'il y a des démarcheurs ou des personnes malveillantes qui puissent se présenter à des domiciles, c'est complémentaire. Maintenant, on a un dispositif dans la police nationale et dans la gendarmerie aussi qui s'appelle Opération Tranquillité Vacances, puisque j'ai écouté ce que vos auditeurs vous faisaient remonter par le biais de vos sites et de vos moyens de communication. C'est que c'est très simple, quand vous partez en vacances, vous allez vous présenter au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie, vous dites par exemple du 10 août au 20 août, je suis en déplacement dans le Var en vacances, si vous êtes par exemple parisien ou même nordiste ou dans une autre région, et je serai pas là durant cette période, je vous donne mes coordonnées, et de cette manière, deux choses, les policiers, les gendarmes savent que vous n'êtes pas là, et tous les jours, il y a un véhicule à des horaires différents qui va passer près de votre domicile pour s'assurer que tout va bien, et s'il y a un sujet, Eh ben, les services de police ou gendarmerie vous préviendront directement depuis votre lieu de villégiature de vacances, ce qui permet quand même d'avoir un lien rassurant, d'abord que les policiers passent à votre domicile tous les jours et qu'ensuite, s'il y a un souci, vous soyez pas obligé d'attendre de revenir de vos vacances ou d'attendre qu'un voisin vous prévienne si jamais il y en a encore un présent durant cette période estivale pour qu'on puisse vous dire il y a eu un sujet ou un souci dans votre domicile. Après, la participation citoyenne, c'est les dispositifs du ministère de l'Intérieur, ça permet de mettre du lien et du lien malheureusement dans une société qui n'en a quasiment plus où l'individualisme règne sur le collectif. Après, sur le dispositif que le responsable de voisinage vigilant évoque, effectivement, ça peut aider les services de police. Maintenant, sur la résolution des cambriolages, je parle en tant que professionnel, c'est pas l'alpha et l'oméga, mais effectivement, ça permet d'améliorer la communication et le lien entre les gens et aussi la prévention.
Sur franceinter.fr, Fournel nous dit notre hameau est abandonné et voisin vigilant et ça nous notre hameau est abonné, c'était mal écrit, à voisin vigilant et ça nous permet de nous signaler rapidement les événements autour de nous, des soi-disant élagueurs et autres marchands de tapis, chiens errants, etc. Les cambrioleurs se transmettent les bonnes adresses, nous faisons de même. Et puis Adèle qui nous écrit, Adèle, il ne faut pas confondre vigilance et surveillance. La vigilance est naturelle, il est naturel d'appeler la police lorsqu'on voit une effraction par exemple, il n'est pas nécessaire de créer un réseau pour ça, créer un climat de surveillance et de délation, c'est tout à fait autre chose. Juliette Méadel.
Oui, ce que je voulais dire d'ailleurs pour Claire, et pardon si la liaison est mauvaise, c'est que moi je suis contre la circulaire du ministre de l'Intérieur de 2019, donc de Christophe Castaner, qui fonde ce dispositif de participation citoyenne. Je suis contre, et d'ailleurs je l'ai attaqué devant le tribunal administratif le 3 août dernier, parce que la culture, l'esprit du texte, ça n'est pas de favoriser la complémentarité avec les forces de l'ordre, j'entends bien du commissaire de police. Ça n'est pas du tout l'esprit du texte. L'esprit du texte, c'est de demander aux citoyens de remplir une mission de sécurité, à telle enseigne que c'est d'ailleurs totalement contraire au droit français. Il y a un arrêt du Conseil d'État qui dit bien, un arrêt de 1932, qui dit bien que la police, notamment la police municipale, ne peut pas être déléguée à des personnes privées. Alors, il y a vous pouvez dire qu'il y a des dispositifs d'entraide, etc. privés, mais ça n'est pas le sujet. Le sujet de la participation citoyenne, le sujet de la circulaire du ministre de l'Intérieur, c'est de confier des missions de sécurité à des citoyens. Les mots ont un sens. Il faut vraiment bien lire le texte pour ne pas se tromper. On parle bien d'exécuter une mission de sécurité, on parle même d'assurer la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur de la ville. On parle même d'améliorer, je l'ai sous les yeux, d'améliorer l'efficacité des interventions de la police. On parle de développer, je cite encore, une culture de la prévention de la délinquance. Mais ça, c'est le travail des forces de l'ordre. Et c'est un travail difficile, qu'il s'agisse de la police nationale ou de la police municipale. Ils sont formés, ils sont assermentés, ils sont encadrés par le droit. Donc tout ça, c'est une mission qui appartient à l'autorité publique et qui ne peut en aucun cas être déléguée à des citoyens.
Virginie Malochet, vous êtes sociologue. Juliette Méladel, je voudrais poser justement la question à Virginie Malochet, la faire répondre à ce que vous venez de dire. Est-ce que pour la sociologue que vous êtes, il y a une délégation de ce service public, en effet, qui est la protection des citoyens ? Avec ce type de service.
Il n'y aurait pas une délégation de la protection des citoyens dans un sens aussi strict. En revanche, ce que l'on observe de manière assez nette ces dernières années en France, mais comme dans la plupart des pays comparables, c'est effectivement un partage accru, je vais dire ça comme ça, des missions de surveillance et de sécurisation au sens large. Pensez à la montée en puissance des polices municipales, ça a été évoqué. Pensez évidemment à l'essor et à la légitimation du secteur de la sécurité privée. Il y a clairement un mouvement de pluralisation comme ça des politiques et de la production de sécurité. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, la notion de sécurité globale, qui a été très discutée autour de la loi du même nom récemment, vient signifier ces évolutions-là. Après, dans le cas français une fois encore, la participation des citoyens précisément à cet effort de surveillance, je ne sais pas comment faut l'appeler, collective et de sécurité, reste quand même très encadrée et bien moindre, et c'est heureux d'ailleurs que dans plein d'autres pays où des groupes constitués de citoyens effectivement jouent aux policiers et aux justiciers. Voilà, on n'est pas dans ce cadre-là en France, et les pratiques miliciennes ou vigilantistes sont, en l'état actuel des choses et des textes, clairement réprouvées. D'ailleurs, les autorités veillent au grain de ce point de vue-là. Mais si dérive il y a, elles restent très rares et sont sanctionnées.
On peut toujours néanmoins s'interroger sur ce qui est du régalien et ce qui ne l'est plus, et se questionner aussi sur ce partenariat dont je parlais à l'instant, qui a été signé de cette société privée. Par cette société privée avec la police nationale. Mathieu Vallée, vous qui êtes commissaire de police.
Non, mais on a un vrai sujet sur la sécurité privée. Je vais rebondir sur ce que dit la sociologue. Aujourd'hui, le budget de l'État, c'est la réalité, c'est que les vaches sont maigres et qu'on peut plus demander aux policiers de tout faire. Les polices municipales, elles sont systématiquement régentées par des conventions entre le maire, le préfet et les autorités de police. Pourquoi ? Parce que, par exemple, tout ce qui est tapage nocturne, tapage diurne, différents légers liés à des copropriétés, liés à du droit d'immobilier, etc., ça greffe le travail des policiers et qu'on peut pas être partout. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on demande aux policiers de contrôler des passes sanitaires, d'interpeller des cambrioleurs, de se défendre la veuve et l'orphelin lorsqu'il y a des violences à la maison. Et tout ça fait qu'on peut pas démultiplier les policiers. On peut ne pas être d'accord ou être d'accord, mais c'est la réalité. On peut évoquer des jurisprudences du Conseil d'État, de la Cour de cassation, mais au quotidien, c'est pas ces instances qui sont confrontées à la dureté et à la difficulté des Français. Et donc, ces polices municipales, elles sont en complémentarité. Moi, j'ai été chef d'un commissariat. C'est toujours agréable quand on a des policiers municipaux qui peuvent, par exemple, intervenir sur des problèmes de stationnement, des problèmes de salubrité publique, des problèmes...
Et les voisins vigilants, ils sont complémentaires?
Mais les voisins vigilants, je peux être désagréable avec le créateur de ce dispositif, c'est un dispositif.
Et le dispositif qui est aussi le dispositif national, hein, les deux, voisins vigilants et participation citoyenne.
J'ai envie de dire, il y a Mme Médel se cristallise un peu sur la circulaire de M. Castaner, qui d'ailleurs n'est plus ministre de l'Intérieur, ça échappe à personne, mais sur la participation citoyenne. Mais c'est pas l'alpha et l'oméga. Puis après, il y a l'esprit de la note, et puis il y a l'application de cette note dans la réalité. On a des policiers qui font preuve de discernement, et en aucun cas, je remercie la sociologue d'avoir précisé, il y a des substitutions par des milices privées ou par des citoyens qui seraient armés ou en tenue pour faire le boulot de la police, parce que d'abord ils se mettent en danger, et puis effectivement les policiers savent faire leur travail. Il faut, je le dis, j'en profite à vos auditeurs, c'est pas naturel pour tout le monde. Quand vous avez une infraction en cours, faites le 17.
La sécurité peut être l'affaire de tous, et quelles sont les limites de l'exercice? C'est la question du débat de midi aujourd'hui. On attend toujours vos commentaires, vos réactions sur le site de France Inter. Il est 12h50 et nous sommes ensemble jusqu'à 13h.
Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias, j'ai respiré en entier pour une fois, et envoyé 2000 prières au vent pour nous sauver de toutes les peines d'avant. Avant la rivière a séché, avant que tout soit emporté, je veux retourner dans l'allée, entendre les séquoias chanter. Ah, 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 ah. Apprivoiser le silence, les faiblesses de ma voix, et habiter mon propre corps pour la première fois. J'ai bien gardé tous les secrets du vent, entremêlés, la salle épaisse et mon sang. Avant les arbres assassinés, thank you. J'ai respiré en entier pour une fois.
Pomme qui chante les séquoias, la playlist de l'émission, vous la retrouverez sur le site de l'émission.
Thomas Chauvineau, le débat de midi.
Quatre invités pour parler des voisins vigilants aujourd'hui. La sociologue Virginie Malocher, le commissaire de police Mathieu Vallée, Thierry Chicha qui est président des voisins vigilants et solidaires et Juliette Méadel, présidente du premier groupe d'opposition à la mairie de Montrouge. Et puis ces messages qui continuent de nous arriver sur l'application de France Inter. Anaël nous dit bonjour. Dans une société qui tend vers l'individualisme, je trouve fort dommage que le seul lien qui puisse unir un quartier soit la peur, la haine ou la méfiance. Vincent qui est un peu dans le même état d'esprit. Pourquoi ne pas transformer voisins vigilants en voisin bienveillant? C'est vrai ça, Thierry Chicha? Pourquoi ça ne s'appellerait pas voisin bienveillant?
Le point quand même d'entrée du dispositif, c'est la vigilance vis-à-vis des risques de cambriolage. Mais vous remarquerez que dans le nom de voisin vigilant, c'est voisin vigilant et solidaire, pour ne pas oublier tout ce volet de convivialité, d'entraide de voisinage. Pour revenir sur le point du partenariat avec la police nationale, en effet, il y a à ce jour 1 million de voisins vigilants en France depuis une vingtaine d'années, 700 mairies et autant de polices municipales. Et en effet, depuis quelques mois, la police nationale qui soutient ce dispositif. Je pense que tout ça est la preuve que ça fonctionne, que ça apporte quelque chose, que ça dissuade, que ça rassure les personnes. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, en tout cas à vos auditeurs, de faire le test, de vous rendre sur le site voisinvigilant.org. C'est totalement gratuit. Vous mettez votre adresse et vous allez voir si à côté de chez vous, vous avez des communautés de voisins vigilants. Et je pense
et que la publicité est passée, Thierry Chicha. Virginie Malocher, est-ce que justement, ça fonctionne? Ce qu'il y a de curieux, c'est que ce processus, donc, qui s'est vraiment généralisé à partir de l'année 2011, a rarement été étudié sur le fond.
Oui,
Est-ce qu'on peut dire ça fonctionne?
C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas possible de dire, parce que pas suffisamment documenté, que ça fonctionne de manière générale. Quand on regarde d'un peu près comment ça se passe, on se rend compte qu'il y a des dynamiques très inégales d'une communauté à l'autre, d'une localité à l'autre. Donc là encore, il faut s'intéresser aux usages, aux pratiques réelles. Et voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, l'un des points qui ressort très souvent, moi ce sont des retours très fréquents que j'ai de la part, par exemple, des forces de l'ordre, c'est qu'il est très difficile, une fois ces groupes constitués, de les faire vivre dans la durée. Et que de ce point de vue-là, ce sont des réseaux qui, souvent, se délitent d'une certaine façon parce que pour motiver des habitants à s'investir dans ce type de réseau, encore faut-il qu'ils en voient l'utilité. Et ce n'est pas toujours évident. Mais là encore, il y a des réseaux dans lesquels, effectivement, les habitants s'estiment très... très satisfait de participer, effectivement, d'être en lien avec d'autres voisins. Je voudrais quand même dire une chose qui me semble importante, c'est que par-delà cette vision restrictive qu'ont souvent les pouvoirs publics, la participation citoyenne dans le champ de la sécurité, tout de même, ne saurait se limiter à ces modes de contribution très directs, à la vigilance, à l'ordre local, pour le dire comme ça. Il me semble que la participation citoyenne en matière de sécurité, elle devrait aussi et peut-être surtout toucher à la capacité de peser sur les politiques mises en œuvre, à la capacité d'agir, sur la définition des problèmes, la capacité d'obtenir des comptes de la part des pouvoirs publics. Et de ce point de vue-là, s'agissant des affaires de sécurité, très clairement, le constat, il est sans appel. Les modes de gouvernance, de gouvernement même, on peut dire, restent très, très institutionnels. C'est-à-dire que il n'y a pas de place qui soit réellement faite aux citoyens dans la conduite des politiques de sécurité.
Et ça, voilà. Le citoyen peut être vigilant, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Il n'intervient pas dans la politique en tant que tel. Mathieu Vallée,
commissaire de police. Je rassure la sociologue. Effectivement, elle a raison. Il faut que les gens contribuent à la sécurité et on a besoin d'eux. Sans eux, il n'y a pas de sécurité en France. C'est pas les 143 000 policiers et les 100 000 gendarmes qui peuvent assurer toute la sécurité eux-mêmes. On a deux dispositifs concrets. On a désormais les conseils de sécurité quotidien qui, tous les 15 jours, dans les commissariats, se rassemblent avec des représentants des riverains et qui permet d'évoquer des sujets d'abord pour les faire connaître au pouvoirs publics et ensuite pour les suivre. Et désormais, autour de la table, on n'a plus que des policiers, on a aussi l'éducation nationale, on a aussi les bailleurs sociaux, on a tous les acteurs au quotidien qui sont avec nous. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, dès qu'on a un sujet, les gens n'hésitent pas à nous contacter. Et chaque jour, les policiers sont sur la voie publique au contact de la population, ce qui est aussi du renseignement.
Eh bien, merci à tous les quatre d'avoir été en direct. Aujourd'hui, le débat de midi, c'est fini, mais on se retrouve demain, mercredi, jour de sortie des films. Le bon moment pour se demander si le cinéma n'est pas en train de mourir. Salle déserte, films repoussés, plateforme de VOD. On attend déjà vos commentaires et vos réactions sur l'appli de France Inter.